Walid Regragui, Maroc-Brésil, coup d'envoi à 22h en temps universel. C'est la fin de ce journal. Très belle journée à l'écoute de RFI.
Amis auditeurs d'Impromptu, bonjour. La lecture d'un journal intime d'un écrivain, c'est celui de Susan Sontag dont il s'agit aujourd'hui, suscite parfois cette sensation d'être au plus près de sa vérité singulière. C'est comme pénétrer par effraction dans son espace et son temps. Bien sûr, cela s'avère souvent illusoire. Voyons si la lecture de ce premier tome du journal de Susan Sontag, intitulé « Renaître », nous permettra de mieux connaître cette intellectuelle américaine.
La préface de cet écrit de Susan Sontag est réalisée par son fils, David Reif, qui en permit la publication en 2008. Traduit de l'américain par Anne Weick, nous pouvons aujourd'hui apprécier, par ses brèches dans la vie intime, celle qui fut un esprit libre de la fin du XXe siècle, une représentante de la gauche intellectuelle américaine. À la fin de sa vie, elle meurt en décembre 2004, elle est la militante qui s'est engagée activement contre la guerre menée en Irak par George Bush, après s'être insurgée auparavant contre la guerre au Vietnam. Elle fut aussi la théoricienne des structures du récit qu'elle décrira dans l'essai « Sous le signe du Saturne » en 1980. Elle se passionne donc pour les recherches intellectuelles françaises avant-gardistes, structuralisme, nouvelle critique, cinéma de la nouvelle vague, littérature du nouveau roman. Elle aimait beaucoup la France, qui le lui rendait. Elle fut élevée au rang de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2004. Aujourd'hui, ce sont des extraits du journal de sa période parisienne, dans les années 60, que nous lirons. Ces fragments disent le moi dans toute son intimité, ses émergences, ses urgences. Son fils, né en 1952, est alors un petit garçon que les parents se disputent. Suzanne avait épousé le jeune professeur d'université Philippe Reif, qu'elle a épousé à 17 ans, puis quitté pour vivre son choix de vie homosexuelle. Analyse, introspection pointilleuse et pointilliste, où d'autres consciences affleurent, sont citées et nourrissent celle de Susan Sontag.
Renaître, beau titre pour un journal qui constitue peut-être la pause nécessaire pour cette nouvelle vie née par l'écriture. David Reif justifie ce titre qu'il donne à ses écrits par ces mots.
Une fois la décision prise de publier les journaux, il n'était pas question pour moi d'exclure quoi que ce fût, soit parce que la note présentait ma mère sous un certain éclairage, ou bien à cause de la franchise sexuelle ou de la méchanceté dont elle pouvait faire preuve, même si j'ai choisi d'omettre les vrais noms de certaines personnes. Au contraire, mon principe de sélection fut partiellement structuré par mon impression que ce qui est le plus captivant dans les journaux est précisément la crudité et le portrait sans retouche que ces textes offrent de Susan Sontag, une jeune personne qui, en toute conscience, a entrepris de créer le sujet qu'elle voulait être. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'intituler ce volume « Renaître », d'après une expression qui apparaît en page de garde d'un de ses premiers carnets. Cela semble bien résumer ce à quoi ma mère travaillait depuis son enfance. David Reif.
Horizon se situe en 1958. Suzanne est alors à Paris, amoureuse d'une femme nommée Hélène. Amour tumultueuse et vie parisienne partagée ensuite avec la dramaturge Maria Irène Forns, rencontrée à Paris.
26 février 1958. Et écouter Simone de Beauvoir parler du roman, c'est encore possible. Hier soir à la Sorbonne, avec Jeff. Elle est mince et intense, avec des cheveux noirs. Elle est très belle pour son âge, mais sa voix déplaisante, un peu trop haut perché. Plus la vitesse nerveuse avec laquelle elle parle. Élu en fin d'après-midi, reflet dans un œil d'or de Carson McCullers. Adroit, vraiment économique et écrit. Mais je n'adhère pas à l'apathie, à la catatonie ou à l'empathie animale comme motivation. Dans un roman, je veux dire. 27 février 1958. Beau concert à la Sorbonne ce soir. Concerto brandebourgeois, numéro 6. Concerto pour violon de Beethoven, Georges Tessier. Deux arias de Mozart, Dalla Sua Pace. Plus Messe du couronnement, numéro 15. Cette fausse et dangereuse relation, plus fausse, plus dangereuse pour moi que pour Hélène. C'est vrai pour moi. Pour elle, c'est juste des apparences peu satisfaisantes qu'elle sauve avec un quart de son attention, tandis qu'elle pleure son Irène. En train de lire Emma Goldman, L'épopée d'une anarchiste. 1er mars 1958. Le nadir de ma relation avec Hélène. L'insulte fantastiquement brutale entre me faire l'amour jeudi soir et un éloignement total hier. Est-ce que je savais ce qui n'allait pas? Je devrais me poser quelques questions, etc. J'ai fui en larmes dans le métro à 4 heures, plongée dans un film. Grand Hôtel, Garbo, Crawford. Puis à l'Old Navy pour un rendez-vous avec Monique, Anne, là aussi. Dîner au Godéamus, me suis enivrée à la Slivovitz, au point de ne plus entendre littéralement du tout. Retour aux Champs-Élysées pour un autre film, Témoin à charge. N'entendais et ne suivais toujours pas. Repris le métro à minuit avec Han et Monique et suis sortie bêtement, mais sans aucune honte, à Concorde pour prendre un taxi et aller à l'Old Navy, où j'avais dit que je serais. Dans l'espoir qu'elle s'y trouve, mais sachant qu'elle n'y serait pas. 24 mars 58. Cessez de réserver aussi exclusivement ce journal pour la chronologie de mon histoire avec Hélène. L'image d'une image d'image, c'est assez ou plutôt trop que je l'aime, que j'éprouve un plaisir énorme simplement à la regarder, que de temps en temps nous fassions l'amour, eh bien... Mais noter tous les hauts et tous les bas, en un sens, cela les falsifie. Et je commence à me leurrer et à penser que tout cela est ou pourrait être vrai. Il suffit de jouer le jeu ou tenter de le jouer. Une erreur de compter les points. 14 juillet 1958. Vivre avec Hélène signifie subir un assaut généralisé contre ma personnalité, ma sensibilité, mon intelligence, tout sauf mon physique, qui, au lieu d'être critiqué, est rejeté. Mais c'est bon pour moi, je pense, n'ayant rien à voir avec le fait que ces critiques viennent de la personne que j'aime. Je suis devenue complaisante durant les années passées avec Philippe. Je m'étais habituée à sa molle adulation. J'avais cessé d'être dure avec moi-même et acceptais mes défauts comme aimables puisqu'ils étaient aimés. Mais c'est vrai, les accusations d'Hélène, je ne suis pas très fine sur les autres, sur ce qu'ils pensent et ressentent, bien que je sois sûre d'avoir en moi la capacité d'être empathique et intuitive. Mes sens se sont émoussés, surtout celui de l'odorat. C'était peut-être nécessaire, ce repli sur l'intérieur, cet engourdissement de ma sensibilité, de mon acuité, sinon je n'aurais pas survécu. Pour rester saine d'esprit, je suis devenue plus dure, Maintenant, je dois commencer à risquer ma santé mentale, à rouvrir mes nerfs. En plus, j'ai acquis de nombreuses habitudes négatives auprès de Philippe. J'ai appris à être indécise. J'ai appris à parler de manière répétitive, à répéter la même observation ou proposition. Parce qu'il n'écoute pas ou parce que rien n'est remarqué, si ce n'est dit de nombreuses fois. Parce que son accord donné une fois n'est pas considéré par lui comme le liant. Philippe ne fait absolument pas attention à ce que les autres personnes en sa présence peuvent sentir ou ressentir. Je me souviens du fiasco de l'interview du professeur Frank Manuel à Brandeis il y a 6 ans. Est-ce qu'il les préoccupe? Je suis devenue moins sensible aussi. Malgré toutes les séances de dissection de nos soirées, faites dans la voiture, après des fêtes, ou des interviews, ou des conférences, durant lesquelles je tentais de lui apprendre à être un peu plus conscient des choses. Philippe m'a également convaincue de son idée de l'amour, que l'on peut vraiment posséder une autre personne, que je pourrais être une extension de sa personnalité et lui de la mienne, comme David pourrait l'être de nous deux. L'amour qui ingère, qui dévore l'autre personne, qui coupe les tendons de la volonté. L'amour comme immolation de soi. Mes gestes sont languissants, par exemple. Ma façon de peigner mes cheveux, l'allure à laquelle je marche. Hélène a raison, mais elle a tort de m'en vouloir. Mieux vaut être décidé, volontaire, que poli, docile, prêt à céder au choix de l'autre personne. Admettre mes erreurs quand j'ai été trompée ou qu'on a profité de moi, un luxe qu'on devrait rarement se permettre. Les gens peuvent avoir l'air de sympathiser, mais en réalité, ils vous méprisent un peu. La faiblesse est contagieuse, les forts méprisent à juste titre les faibles. Philippe m'envoie des lettres pleines de haine, de désespoir et de bonne conscience. Il parle de mon crime, de ma folie, de ma stupidité, de ma complaisance avec moi-même. Il me dit combien David souffre, qu'il pleure, qu'il se sent seul, combien je le fais souffrir. Voici quelques notes de lecture écrites par Susan Sontag sur les écrivains, les artistes, les journaux de son temps.
Non daté, également automne 1959. L'univers de Françoise Sagan. Un groupe de Parisiens, pour la plupart liés aux arts, qui forment un cercle d'engouement sexuel non partagé. Les notes suivantes ne sont pas datées, mais le carnet a certainement été écrit durant l'automne 1959. Miss Van Der Hoy, moins, c'est plus. Jane Austen, j'écris sur l'amour plus l'argent. Y a-t-il d'autres sujets? Kafka, à partir d'un certain point, il n'y a plus de retour possible. C'est le point qui doit être atteint. Les sentiments anti-anglais de Ionesco détruisent le sens de la cantatrice chauve de la jouer comme dans un salon de banlieue américaine. Le style new-yorker, registre, classe moyenne, supérieure, enrichi d'expressions familières, donne l'impression d'une distinction ironique, celle de l'amateur intelligent, ne peut communiquer aucune perception ou sentiment profond. Ma mère a amélioré ses manières en perdant l'appétit. Non daté, automne 1959. Conséquence du fait d'être trop conscient de soi. Spectateurs et acteurs sont les mêmes. Je vis ma vie comme un spectacle donné pour moi-même, pour ma propre édification. Je vis ma vie, mais je ne vis pas dans ma vie. L'instinct d'accumulation dans les relations humaines. Petit programme par rapport à son fils David, septembre 1959. 1. Être cohérente. 2. Ne pas parler de lui aux autres, comme par exemple dire des choses drôles en sa présence. Ne pas l'embarrasser. 3. Ne pas l'encenser pour quelque chose que je n'accepterais pas forcément comme bien. 4. Ne pas le réprimander sévèrement pour quelque chose qu'il a été autorisé à faire. 5. Routine quotidienne, manger, devoir, bain, dents, chambre, histoire, lit. 6. Ne pas le laisser me monopoliser quand je suis avec d'autres personnes. 7. Toujours bien parler de son papa. Pas de mou, de soupir, de signe d'impatience. 8. Ne pas décourager ses fantasmes d'enfant. 9. Lui faire comprendre qu'il y a un monde d'adultes qui ne le regarde pas. 10. Ne pas me dire que ce que je n'aime pas faire, prendre un bain, me laver les cheveux, il n'aimera pas non plus. Octobre 1959. Je ne suis pas pieuse, mais copieuse. 19-11-59. La venue de l'orgasme a changé ma vie. Je suis libérée. Mais ce n'est pas la bonne façon de le dire. Plus important, cela a rendu ma vie plus étroite, m'a fermé des possibilités, a rendu des alternatives nettes et claires. Je ne suis plus illimitée, c'est-à-dire rien. La sexualité est le paradigme. Avant, ma sexualité était horizontale, une ligne infinie qui pouvait être infiniment sous-divisée. Maintenant, elle est verticale. C'est le grand saut ou rien. L'orgasme aiguise. Je désire physiquement écrire. La venue de l'orgasme n'est pas le salut, mais plutôt la naissance de mon ego. Je ne peux écrire tant que je n'ai pas trouvé mon ego. Le seul type d'écrivain que je pourrais être est celui qui se montre. Écrire, c'est se dépenser, se jouer. Mais jusqu'à maintenant, je n'aimais même pas le son de mon propre nom. Pour écrire, je dois aimer mon nom. L'écrivain est amoureux de lui-même et crée ses livres à partir de cette rencontre et de cette violence. 20-11-59. Je n'ai jamais été aussi exigeante avec quelqu'un que je le suis avec Irène. Je suis jalouse de tout ce qu'elle voit. Je souffre chaque fois qu'elle s'éloigne de moi. Mais pas quand je la quitte et que je sais qu'elle est là. Mon amour veut l'incorporer totalement, la manger. Mon amour est égoïste. Mon désir d'écrire est lié à mon homosexualité. J'ai besoin de cette identité comme arme pour lutter contre l'arme que la société dirige contre moi. Cela ne justifie pas mon homosexualité, mais cela me donnerait, je le sens, une autorisation. Je suis juste en train de devenir consciente de la culpabilité que je ressens du fait d'être gay. Avec Hélène, je pensais que cela ne me gênait pas, mais je me mentais. Je laissais d'autres gens croire que c'était Hélène qui était mon vice et que sans elle, je ne serais pas gay, ou au moins pas principalement gay. Je relis ma peur et mon sentiment de culpabilité à Philippe, au fait qu'il l'a dit partout et à tout le monde, à la perspective d'un autre procès pour la garde de l'enfant l'été prochain. Être gay me fait me sentir plus vulnérable. Cela augmente mon désir de me cacher, d'être invisible, ce que j'ai toujours ressenti de toute façon. 28 décembre 59. Jusqu'à présent, j'avais l'impression que les seules personnes que je pouvais connaître en profondeur ou aimer vraiment étaient des doubles ou des versions de ma misérable personne. Mes sentiments intellectuels et sexuels ont toujours été incestueux. Maintenant, je connais et aime quelqu'un qui n'est pas comme moi, c'est-à-dire pas une juive, pas une intellectuelle à la new-yorkaise, sans aucun problème dans l'intimité. Je suis toujours consciente de ce qu'Irène a de différent, de l'absence d'un milieu commun, et je vis cela comme un grand soulagement. Nous allons vous lire un mélange de notes personnelles pour des cours. Elle fut enseignante en philosophie des religions à l'Université de Columbia, des listes d'ouvrages à lire ou lus, des remarques d'ordre psychologique qui se mêlent constamment et témoignent de l'intensité de sa vie intérieure. Elle nomme X la difficulté qu'elle a à être avec les autres.
13 janvier 1960. Cela me prendra peut-être 5 ans pour comprendre pourquoi je n'aime pas répondre au téléphone. Il y a tant de niveaux de compréhension du lien téléphonique pour moi. Et le langage contemporain, avec son langage facile d'auto-analyse, m'aide à continuer de vivre à la surface de moi-même. Je peux dire que je suis timide ou névrotique ou sensible à l'insulte barbare contre l'intimité que représente le téléphone. J'exclus, comme ne valant même pas la peine d'y réfléchir, les conceptions de type psy, telles que « ma mère m'a fait utiliser le téléphone quand j'avais 2 ans », « les téléphones noirs sont des symboles sexuels », etc. Élu le dialogue de Justin Martin avec le rabbin Tryphon, 2e siècle avant Jésus-Christ. Christianisme contre judaïsme. En train de relire Anna Karénine. Pendant plusieurs siècles avant Jésus-Christ, certains temples grecs furent utilisés comme retraite, où ceux qui étaient émotionnellement perturbés pouvaient se remettre dans une atmosphère calme, reposante. Thérapie de l'environnement. 14 janvier 1960. J'ai vu au-delà de Kant aujourd'hui, hier en réalité car il est 1h du matin, des cours merveilleux, les derniers cours du trimestre. Je ressens une grande tendresse pour environ une douzaine de ces jeunes. 1. Kant démarre au bon endroit, considérant comme paradigmatique de la situation morale un état de conflit ou d'indécision. Précisément, le conflit entre inclination et sens du devoir. Il est au centre ici. Comparé avec Aristote qui fait de la philosophie morale en nous donnant une prescription sur le type de personnalité qu'un homme bon doit avoir et les conduites dont il pourra faire preuve. Il pense à des conduites plutôt qu'à des décisions individuelles, concrètes. D'où le fait que l'impératif catégorique est inutile. 3. Guérir, apporter la complétude. 21 janvier 1960. Je pense rarement, sauf quand je parle. C'est pour ça que je parle tant. Et c'est pour cela que je n'écris pas. Alfred Chester dit que je manque extraordinairement de tact. Mais ce n'est pas que je ne sois pas gentille, ni que j'ai besoin de faire mal aux gens. En fait, je trouve très difficile d'être méchante, d'infliger de la peine. Le X, c'est plutôt que je suis bête, insensible. Hélène l'a dit, Judith l'a dit, et maintenant c'est Alfred. Irène ne le dit pas parce qu'elle ne sait pas combien je suis bête. Elle pense que je sais ce que je fais, mais que je suis cruelle. Le X, le sentiment d'être lié, forcé par une autre personne. Mais vous ne pouvez pas vous libérer. Vous voulez que l'autre personne vous libère. D'où le côté garce de la personne X dans une relation à long terme. Alors que dans les relations courtes, cela se manifeste dans la chaleur et un côté agréable. Le X dans la relation d'une nuit ou au téléphone, l'incapacité de dire non. Le X lié au sentiment de honte. Le X, c'est la compulsion à être ce que veut l'autre personne. L'inspiration se présente à moi sous la forme de l'anxiété. Ces notes sonnent comme des aphorismes.
29 janvier 60. La puanteur de dortoir de l'âme. Important de devenir moins intéressante, de parler moins, de répéter plus, de garder la pensée pour l'écriture. Le plaisir de la tragédie et le suicide par procuration. Non daté, très probablement fin janvier 1960. Série d'histoires. Anna Strindberg, mariée. 1. Le mariage rédempteur. 2. La guerre des sexes. 3. Second mariage. 4. Changement de classe. 5. Donjuanisme. 6. Mariage brisé par une liaison homosexuelle. 7. Lettre à mon mari par femme qui l'a quitté. Note sur le mariage. Le mariage plus toute la vie de famille est une discipline souvent comparée dans l'orthodoxie orientale à celle de la vie monacale. Les deux émoussent les angles aigus de la personnalité comme des galets, charriés ensemble par les vagues de la mer, se frottent et se lissent avec le temps. Non daté, très probablement aussi de fin janvier 1960, après une longue analyse très académique du vice et de la vertu qui n'est pas reproduite ici. Susan Sontag rédige la paraphrase suivante d'une citation de Nietzsche : « Ne pas être gentil. La gentillesse n'est pas une vertu. Mauvais pour les gens avec lesquels vous êtes gentil, c'est les traiter en inférieurs. » Visage de star du cinéma muet, l'accent a été mis sur les yeux, maintenant c'est sur la bouche. On n'a plus le même type de gros plan, visage qui regarde le public, qui séduit, qui supplie, maintenant visage qui regarde un autre visage sur l'écran. En peinture, j'en suis venue à comprendre la valeur des penchants destructeurs. Autant de niveaux de sexualité qu'il y a de niveaux d'intellect. Ah, je n'aime pas les écrivains qui ignorent l'étrangeté qui s'est glissée dans la vie contemporaine depuis la bombe.
La situation sentimentale avec Irene Forns se détériore. Susan Sontag en fait une analyse lucide.
Je ne ressentais pas le X envers Philippe, parce que je satisfaisais ses demandes autant que je le pouvais, parce que je ne parlais de lui avec personne, parce qu'il était alors numéro un. Non daté, très certainement mi-février 1960. Devant la poésie de ceux qui sont fous, s'efface la poésie de ceux qui sont dans leur bon sens. Phèdre. Non daté, très certainement mi-février 1960. Le bouillonnement dans la tête, les conversations d'une journée avec l'amante absente, les impulsions, les fantasmes. 18 février 60. Irène et moi ne nous parlons plus vraiment. Nous sommes déjà lasses, conscientes que tout a été dit, ou qu'au moins plus a été dit que fait. Que nos actions sont des arriérés de nos paroles. Le sédiment du ressentiment s'accumule et il semble que la chose civilisée à faire soit de regarder ailleurs. Je me souviens du moment où je me suis rendu compte de cela avec Philippe. C'était juste un ou deux mois après notre mariage. La première dispute fut un choc. Au Drexel de Midway, parce que j'avais jeté ma chaussette sale par terre dans la penderie. Et combien j'avais pleuré environ une semaine plus tard quand j'ai lu Les Heureux et Les Damnés en voyant comment ils se querellaient. Mais ce fut encore pire lorsque nous avons commencé à nous disputer sans plus jamais nous réconcilier. Au début, on se disputait, on était très bouleversés, silencieux, on ne se parlait plus. Puis l'un de nous brisait le silence pour expliquer, pour demander pardon, pour faire d'autres récriminations. La dispute n'était terminée que lorsque nous chassions l'objet de la discorde, regrettions l'incident, pleurions, faisions l'amour. Mais il a fini par arriver que nous nous disputions et que les disputes durent. Un lourd et douloureux silence s'installait pour un ou deux jours, ou peut-être juste une nuit. Et ensuite, imperceptiblement, les routines et les obligations de la journée, d'une vie vécue totalement ensemble, ce qui voulait dire aller faire les courses, changer les draps, et se demander où se trouve votre deuxième chaussure, force l'un des deux à parler, à être aimable, et le fil est ramassé, la dispute n'est alors pas abolie, mais recouverte par consentement mutuel. C'est ce qui est arrivé à Irène et à moi. Pas parce que nous nous aimons moins, mais parce que chacune trouve plus solide, plus opaque les limites de l'autre. Combien de temps peut-on se plaindre de la même chose ? Avoir lu les notes récentes d'Irène il y a deux semaines m'a donné le même mauvais sentiment que lorsque je lisais celle d'Hélène. Ce n'est pas qu'une fois encore je me retrouvais vu avec dureté et dans la déception, c'était plutôt cet aperçu de moi-même lisant les notes qui me dérangeait. Moi qui étais constamment en train de chercher mes repères dans l'opinion des autres. Le dernier extrait que nous lisons se situe en février 1960 et Suzanne Sontag essaie de cerner encore une fois ce fameux X.
Non daté, février 1960. Le X, la plaie. Le X, c'est quand vous vous sentez un objet, pas un sujet. Quand vous voulez plaire aux gens ou les impressionner, soit en disant ce qu'ils veulent entendre, soit en les choquant, ou en vous vantant, et en citant des noms importants, ou encore en étant très cool. L'Amérique est un pays très X. Peu juguler le X par des règles de comportement social et sexuel, ce que l'Amérique a moins clarifié. La tendance au manque de discrétion, à propos de soi-même ou des autres, les deux vont souvent ensemble, comme chez moi, est un symptôme classique du X. Alfred l'a fait remarquer l'autre soir au White House. Combien de fois ai-je dit aux gens que Pearl Cousin était une petite amie de Dylan Thomas qui a beaucoup compté? Que Norman Mailer fait des orgies? Que F.O. Matheson était gay? Tout cela est de notoriété publique, c'est sûr, mais bon Dieu, qui suis-je pour aller parler des habitudes sexuelles des autres? J'ai toujours trahi les gens, les uns avec les autres. Pas étonnant que je sois si noble et scrupuleuse sur ma manière d'utiliser le mot « ami ». Les gens qui ont de la fierté n'éveillent pas le X en nous. Ils ne supplient pas. Nous ne pouvons pas avoir peur de leur faire mal. Ils s'éliminent d'eux-mêmes de notre petit jeu dès le départ. La fierté, l'arme secrète contre le X. La fierté, le X-cid. Si ce n'est par l'analyse, par la moquerie, comment puis-je vraiment me guérir du X? Irène dit que l'analyse est un bon moyen. Puisque c'est mon esprit qui m'a mise dans ce trou, je dois m'en sortir toute seule par l'esprit. Mais la vraie solution est un changement de sentiment. Plus précisément, une relation nouvelle entre sentiment et esprit. La source du X est « Je ne connais pas mes propres sentiments. Je ne connais pas mes vrais sentiments, donc je me tourne vers d'autres personnes, l'autre personne, pour qu'on me les dise. Alors l'autre personne me dit ce qu'il ou ce qu'elle voudrait que soient mes sentiments. » C'est bon pour moi, puisque de toute façon, je ne connais pas mes sentiments, j'aime être agréable, etc. J'ai pour la première fois pris conscience que je ne connaissais pas mes sentiments à propos de désaccords sur des films, avec Hélène, à Paris. Ils aimaient la vie, André Schwajda. J'ai aimé, pas elle. Monica et le désir, d'Ingmar Bergman. Je n'ai pas aimé. Elle a aimé. Les Nuits Blanches de Visconti, à propos du personnel de Maria Schell, qu'elle et Annette ont détesté. Ce n'est pas tant que j'attendais d'entendre ce que les autres avaient d'abord à dire. J'ai tout de suite répondu quand on m'a demandé ce que je pensais. Mais après, en entendant ce que Hélène et Han, ils aimaient la vie, et Han et Sam, Monica, Hélène et Annette, les Nuits Blanches, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Et j'avais tort, et je ne trouvais aucun bon argument pour défendre mon opinion. Comment peut-on connaître ses propres sentiments? Je ne pense plus connaître un seul des miens. Je suis trop occupée à les étayer et à les rassembler. Je ne connais pas mes vrais sentiments. C'est pour cela que j'éprouve un tel intérêt pour la philosophie morale. Qui me dit, ou en tout cas m'oriente en ce sens, ce que devraient être mes sentiments? Pourquoi se soucier d'analyser le métal brut, me dis-je, si on sait produire directement du métal raffiné?
De la publication de ce premier tome par le fils David des écrits si intimes de sa mère est posée dans la préface en ces termes. Il décrit l'étonnement de sa mère à la réaction très primitive des spectateurs de la tragédie Médée donnée en Grèce. Il suppliait Médée de ne pas tuer ses enfants. S'associant à ses spectateurs en lecteur de ses écrits si intimes, il déclare
« Ces journaux sont vrais également ». Et en les lisant, j'ai bien peur de réagir comme ces spectateurs grecs du milieu des années 1950. Je veux hurler « Ne fais pas ça !» ou alors « Ne sois pas si dur avec toi-même !» ou bien « N'aie pas une si haute opinion de toi !» ou encore « Méfie-toi d'elle, elle ne t'aime pas !» Mais bien sûr, c'est trop tard, la pièce a été jouée et la protagoniste est partie.
Cette lecture du premier des trois tomes du journal de Susan Sontag peut peut-être contribuer à démentir ce constat. C'est ce à quoi nous nous sommes employés par cette lecture. La musique qui a accompagné ces textes est celle jouée par Charlie Parker dans son album intitulé April in Paris, où il interprète des standards connus certainement de Susan Sontag. Vous avez entendu Star Eyes et Okidoki. Nous vous remercions de votre écoute. À la technique, il y avait Claude-Michel Pugna et Vincent Blanc.
Pour la réalisation du projet Anne Prono et la lecture, Anne Prono et Christine Lassalle. Au revoir, chers auditeurs. À une prochaine fois.
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.
For dinner parties.